Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de ce 138e numéro de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Et cette fois-ci, nous sommes vraiment en deuil d'une quelconque actualité à vous présenter. En dehors des concerts que nous vous avons annoncés la semaine dernière, les reports et les annulations se succèdent en raison du couvre-feu et d'un nouveau confinement qui semble imminent. Nous avons notamment appris cette semaine l'annulation des représentations de Péléas et Mélisande, l'opéra de Claude Debussy, qui était prévu au Théâtre du Capitole du 2 au 11 mars. La saison 2021 se réduit donc comme peau de chagrin de jour en jour. Alors que faire? Eh bien, de même que nous vous avions proposé un cycle Beethoven à la fin du printemps et un cycle Bach à la fin de l'automne, nous allons entamer aujourd'hui un cycle Mozart. C'est le dernier des trois géants, enfin de ceux que l'on considère comme les trois géants de la musique savante européenne, auxquels nous n'avions pas encore consacré une série d'émissions. Il se trouve que nous fêtions les 265 ans de sa naissance mercredi. Voici donc le numéro qui va inaugurer ce cycle, et pour l'animer avec moi, j'ai le grand plaisir de retrouver mon ami Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Nous allons vraiment avoir du pain sur la planche tous les deux parce que l'œuvre et la vie de Mozart, aussi courte que celle-ci ait pu être, ce sont tout de même de sacrés morceaux. C'est parti pour un retour arrière de plus de deux siècles et demi.
Mélomanie. Retour arrière.
Et donc Serge, s'agissant de Mozart, il va falloir qu'on s'attarde beaucoup plus sur les premières années de sa vie et le milieu familial dans lequel il a grandi, beaucoup plus que nous l'avions fait pour Bach et Beethoven, parce que les deux sont cruciaux pour la suite et la destinée du futur génie de la musique. Je dis futur génie, mais en fait il est dès le début un génie en herbe. On pourrait presque dire que l'expression « enfant prodige » a été inventée pour lui.
Ah oui, tout à fait. C'est tout de même un compositeur dont la carrière commence à l'âge de 3 ans. Ce qui paraît complètement impensable.
A priori, c'est unique dans l'histoire de la musique.
Ah oui, 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 apparemment, oui. Il était vraiment, les fées s'étaient penchées sur son berceau, donc il avait comblé de bienfaits grâce auxquels sa mémoire reste intacte.
Alors, rappelez-nous où et dans quelle famille est né le petit Mozart le 27 janvier 1756.
Alors, ce jour-là, il naît donc à Salzbourg. Mais Salzbourg, qui maintenant est une grande ville d'Autriche à l'époque, ne dépendait pas de l'Autriche, elle dépendait en fait de la Bavière. Et donc Mozart n'est pas tout à fait autrichien. Et donc...
Je crois qu'il ne se présentait pas comme autrichien lui, hein. même après, je crois qu'il disait qu'il était allemand.
Oui, tout simplement, oui, oui, oui. Il faisait partie du milieu européen, germanique, et donc c'est vrai que l'Autriche, bon, évidemment, s'attribue maintenant sa nationalité, c'est bien normal, mais en fait, oui, il est né donc dans un milieu bourgeois, un milieu aisé, hein, puisque aussi bien son père que sa mère vraiment vivaient de manière non pas opulente, mais
très confortable.
Mais très confortable, oui, exactement. Et alors, ce qui est amusant, c'est la liste de ses prénoms.
Ah oui, alors ça, c'est vraiment étonnant.
Ah oui, oui.
À l'époque, les enfants avaient souvent une ribambelle de prénoms.
Prénom
principal, bien sûr, mais une ribambelle de prénoms.
Voilà, et c'est le cas.
Une telle ribambelle que souvent, ce n'était pas forcément le premier prénom qui passait à la postérité lorsqu'on parle de gens célèbres, mais même dans la vie de tous les jours.
Mais oui, 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 puisqu'en fait, il est baptisé avec les prénoms Johannes, Chrysostomus, Wolfgangus, Théophilus. Voilà les prénoms qui lui étaient donnés à sa naissance. Vous remarquerez qu'il n'y a pas du tout d'Amadeus dans ses prénoms.
Et non, et que Wolfgang ne vient qu'en deuxième position.
Oui, oui, en deuxième position. Et en fait,
son vrai prénom, c'est Jean Chrysostome.
Voilà, mais en fait, son père l'appelait Wolfgang. Et dans tout son courrier, il parle toujours de Wolfgang. Donc, il n'utilise pas d'autres prénoms.
Alors, une chose importante tout de même, c'est que donc, Théophilus,
oui,
le troisième ou quatrième prénom, d'ailleurs, je ne sais pas trop, en grec, ça veut dire « aimé de Dieu ». Et
exact.
L'équivalent en italien, c'est
Amade ou Amadeus. Donc, effectivement, on voit d'où provient le nom d'Amadeus qui lui est resté et qui a fait la gloire d'un film célèbre.
On reparlera plus tard dans notre cycle Mozart, forcément.
Voilà,
oui,
voilà.
Oui, oui. Mais oui, il y a un voyage en Italie en décembre 1769 et c'est là que Amadeus, c'est là qu'il prend donc ce double prénom Wolfgang Amadeus avec lequel il signera ses œuvres,
oui,
ensuite.
Voilà, exactement. exactement. Bon, mais il faut dire qu'il est né quand même dans un milieu favorable pour lui.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que le père était compositeur lui-même.
Était compositeur,
un grand musicien.
Violoniste, célèbre violoniste, hein, et était vice-maître de chapelle du prince-archevêque de Salzbourg. Tout de même, c'était une position flatteuse pour lui.
Et enviable.
Et alors, c'était un professeur de violon très prisé à l'époque, tellement prisé qu'il a écrit une méthode de violon qui a été utilisée, mais jusqu'au début du XXe siècle.
Hein. Dans toute l'Europe, même à l'époque son vivant.
Hein. Même de son vivant. Et donc, c'était vraiment un vrai musicien. Il a, paraît-il, composé quelques 500 œuvres qui ont été publiées. Donc, le milieu était très favorable à sa carrière de compositeur.
Alors, si on parle de toute la famille, on va parler de la mère tout de même. Hein. Donc,
oui.
Anna Maria Walburga Pertl, c'est son nom de jeune fille.
Voilà, voilà.
Je crois, mère très douce que Mozart adorait, vraiment.
Oui, absolument.
Le père était plus strict, lui. Hein.
Honnêtement, oui.
On ne sera pas étonné.
Il l'a un peu utilisé aussi. Hein,
oui, alors ça, on y revient.
On y reviendra. Oui, sa mère était vraiment une femme très, très aimée de ses enfants, puisque, en fait, ils étaient deux, bien qu'ils aient eu de nombreux enfants, mais la plupart sont décédés.
Oui, comme malheureusement, ça arrivait souvent
à l'époque.
Ils ont eu 7 enfants, dont le petit Wolfgang, mais il y en a 5 qui vont mourir de maladies infantiles.
Exactement. Exactement. Mais il a une sœur aînée qui était Marianne, mais on l'appelle Naner, qui est de 5 ans son aînée, donc,
et
qui est également
évidemment.
Musicienne, évidemment. On a l'impression qu'on ne pouvait pas être autre chose que musicien dans la famille.
Donc, dès le berceau, il entend les notes jouées par sa sœur et évidemment la musique jouée par son père. Il est immergé dans la musique toute la journée. Hein.
Absolument.
Toute
absolument.
La journée. Alors, on va écouter quand même. Léopold Mozart, œuvre de Léopold Mozart, le père du petit prodige, celui qui va tout lui apprendre au départ et en fait ça restera finalement son seul vrai maître.
Exactement.
Voilà, compositeur assez renommé de son vivant comme vous l'avez rappelé. Je vous propose d'écouter sa musique avec l'œuvre qui va suivre, la symphonie de chasse, dont voici le 4e mouvement, Vivace. Le 4e mouvement Vivace de la Jagd Symphony, la symphonie de chasse de Léopold Mozart, avec ses coups secs qu'on entend qui ne sont rien d'autre que des coups de fusil. Et ma foi, bon, c'est une musique moi, que je trouve plutôt agréable, Serge. Alors, il y a une chose intéressante à relever, c'est la forte présence des cors, bien sûr, en référence aux cors de chasse. Et on peut se demander, en écoutant cette pièce, si ce n'est pas Léopold Mozart qui a transmis à son jeune fils son amour pour les instruments avant, très présent aussi dans de nombreuses œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart.
Absolument, c'est une hypothèse tout à fait vraisemblable, puisqu'on sait que Mozart, dans de nombreuses œuvres, y compris dans ses opéras, utilise beaucoup les instruments avant, ce qui n'était pas si courant à l'époque. En particulier, on connaît cette magnifique symphonie concertante pour instruments avant, donc de Wolfgang, donc, qui est une pure merveille. Et puis, l'importance, par exemple, de la clarinette dans certains de ses opéras, comme Così fan tutte. Donc, effectivement, il y a probablement une filiation à détecter dans cette utilisation des instruments avant.
Alors en passant, on va préciser une chose. Les gens connaissent peut-être la symphonie des jouets, qu'on appelle aussi parfois la symphonie des joujoux. Elle a longtemps été attribuée à Léopold Mozart. Voilà. Et en fait, il semblerait que non, ce ne soit pas le cas.
C'est-à-dire cette symphonie qui originellement s'appelle Kindersinfonie, donc symphonie des enfants en fait, cette symphonie est passée d'un compositeur à un autre, puisqu'on l'a d'abord attribuée à Joseph Haydn, puis ensuite à Léopold Mozart, donc. Et puis ensuite à Michael Haydn, le jeune frère de Joseph. Et finalement, relativement récemment, on s'est rendu compte, en retrouvant le document, qu'elle était signée d'un moine bénédictin qui s'appelle Edmund Angerer, qui est mort en 1794, donc tout à fait contemporain. Cette symphonie a fait la gloire de la composition de Léopold alors qu'elle n'était pas de lui.
Longtemps, ça a été retenu comme son œuvre majeure.
Exactement.
De chance. Il n'était pas de lui. Revenons maintenant aux premières années du petit génie Mozart. À quel âge il montre ses prédispositions pour la musique et surtout à quel âge il commence à en jouer?
Ça c'est quand même extraordinaire puisque dès 3 ans, il commence à savoir. D'abord, il avait soi-disant l'oreille absolue, donc ce qui aide quand même quand on est compositeur ou musicien. Et puis, il a appris la musique avant d'apprendre à lire, à compter ou à écrire.
Oui, parce qu'apparemment, il avait aussi une mémoire auditive, visuelle aussi, mais auditive exceptionnelle.
Tout à fait exceptionnelle, puisque c'est une mémoire que l'on qualifie de nos jours eidétique. Donc, une mémoire qui offre une faculté de se souvenir d'une très grande quantité d'images, de sons ou d'objets dans les moindres détails. Donc ça, c'est extraordinaire. On verra bientôt que ça lui a servi, notamment au cours d'une visite à Rome.
On y viendra plus tard dans l'émission, plutôt vers la fin d'ailleurs de l'émission. Oui. Alors donc, comme je le disais, son premier maître et son seul maître très longtemps, et peut-être même le seul qu'il ait eu dans sa vie, c'est son père. Donc les premiers instruments, il n'y a pas de surprise, les premiers instruments de Mozart, c'est d'abord le clavecin, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Le violon, parce que le père était un très grand violoniste.
Grand violoniste, donc il lui aussi jouait du violon, Wolfgang, évidemment.
Puis il y aura l'orgue.
Et puis l'orgue, c'est un instrument à clavier, donc c'était un peu logique après le clavecin qu'il joue aussi de l'orgue.
Il commence sa musique à 3 ans, mais il commence à composer à quel âge?
À peu près à cet âge-là, à 5 ans.
À 5 ans plutôt.
Hein. C'est surtout à 5 ans. À cet âge-là, il improvisait déjà, tout petit. Il improvisait sur le clavier, il aimait ça. Et donc, c'est à 5 ans que l'on a découvert les premières œuvres formelles écrites par lui.
Composées par lui, mais écrites par son père.
Écrites par son père, exactement.
C'est son père qui les retranscrit. Il écoute son fils, il les retranscrit parce que c'était un génie, mais quand même, l'écriture musicale, ça va venir un peu plus tard.
Un peu plus tard. Mais alors, là aussi, dans l'écriture, il atteindra des sommets incroyables. Lorsqu'il composait, il écrivait ses documents initiaux plus vite qu'un copiste ne pouvait les copier. On a vraiment affaire là.
Alors il dit lui-même qu'il cherche des notes qui s'aiment.
Des
notes qui s'aiment, c'est joli.
Ah ça, c'est magnifique. Oui. Ses premières œuvres, ce sont 5 menuets, une sonate, un allegro. Et il a composé ça entre ses 7 et 8 ans. Et puis donc, il compose au cours de cette période plus d'une cinquantaine d'œuvres.
C'est quand même incroyable, en fait. On dirait aujourd'hui, je pense que c'était un enfant hyperactif.
Oui, sûrement. Hyper doué, en tout cas.
Non, mais je pense qu'il n'arrêtait pas ou de jouer ou de composer. À cet âge-là. Donc, dès 6 ans, en 1762, il va composer ses premières œuvres. Donc, il y a 5 menuets, une sonate et un allegro. Il y a déjà une sonate. On écoute une des premières compositions du tout petit Mozart, le menuet en Fa majeur, KV4.
Thank you.
le menuet en fa majeur KV4 de Wolfgang Amadeus Mozart, une des premières pièces qu'il a composées à l'âge de 6 ans à peine. Bon, évidemment, on est loin de ce qu'il produira plus tard, mais quand même, il faut bien avoir à l'esprit que c'est un tout jeune enfant qui a composé ça.
Oui, oui, ça c'est vraiment incroyable. Alors le fait que vous mentionniez tout à l'heure, où il dit qu'il cherche des notes qui s'aiment, mais c'est tout à fait proche de la gamme majeure, avec la sensible et la tonique. Donc il avait absorbé tout ça, et pour lui c'était devenu naturel.
Et donc il sera immédiatement très productif, comme il le sera toute sa vie. Voici une autre petite pièce pour clavier, composée à la même époque, en mars 1762 pour être précis, par le petit Mozart, l'Allegro en si bémol majeur, KV3. L'Allegro en si bémol majeur KV3, autre petite pièce pour clavier composée en mars 1762 par Mozart. Et pour la petite histoire, c'est la 8e composition du jeune compositeur. Elle a été retrouvée dans le Nanner Notenbuch. C'est un petit cahier que Léopold Mozart utilisait pour enseigner la musique à ses enfants. Nanner, donc, c'est la Marianne, la sœur aînée de Mozart. Et donc, c'est Léopold lui-même qui a retranscrit sur le cahier les notes que jouait son fils devant lui, qu'il improvisait devant lui. Voilà. 30 mesures dans cette pièce, et oui, il y a déjà une certaine complexité tout de même.
Ah mais oui, 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 avec quelques petites dissonances qui apparaissent et puis qui disparaissent très vite, évidemment. Mais donc, non, c'est vraiment incroyable. Hein. Souvenons-nous de ce que disait de la musique de piano le grand Arthur Schnabel, qui a été un des grands mozartiens de la première moitié du XXe siècle, et qui disait « La musique pour piano de Mozart » est trop facile pour les enfants, mais elle est beaucoup trop difficile pour les adultes. Et donc, derrière, il y a quelque chose.
Il y a la musique en famille chez les Mozart, mais il va y avoir rapidement, pour le petit prodige Wolfgang, la musique devant les grands de l'époque, que ce soit en Autriche bien sûr, ou devant les cours les plus prestigieuses d'Europe, y compris celle de Louis XV d'ailleurs, on va en reparler. On sait que son père a, vous le rappeliez, hein, on sait que son père a beaucoup profité du génie précoce de son fils pour le promener un peu partout et s'attirer les bonnes grâces des têtes couronnées. Quand je dis les bonnes grâces, c'est aussi l'argent hein, des têtes couronnées.
Aussi.
Alors, à quel âge Mozart commence-t-il ce grand tour d'Europe et dans quelle ville, devant quel monarque va-t-il se produire?
Eh bien, je crois qu'on note qu'à l'âge de 6 ans, donc en janvier 1762, avec Nanner et son père, donc, eh ben, ils sont invités à la cour du prince électeur de Bavière à Munich, déjà. Donc, il n'a que 6 ans à l'époque. Et en septembre de la même année, ils sont invités par l'impératrice, carrément, l'impératrice Marie-Thérèse.
Oui, je crois qu'il aura le privilège d'embrasser l'impératrice.
Exactement.
Parce qu'il voulait embrasser tout le monde.
Ah oui, 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 absolument.
Comme souvent les enfants.
Oui, oui, il était très affectueux et il demandait aux gens « Aimez-moi ». Oui, aimez-moi, oui, oui, oui. Il voulait qu'on l'aime. Ben, c'est un gamin de 6 ans, il ne faut pas l'oublier, donc effectivement. Alors, l'année suivante, en 1763, donc il a 7 ans, les Mozart font une grande tournée de concerts qui les amène à Munich, Augsbourg, Ulm, Mannheim, Francfort, Cologne, Aix-la-Chapelle, Bruxelles et Paris, où ils séjournent quand même 6 mois et sont accueillis notamment par les philosophes des Lumières, hein. Des gens comme Melchior Grimm, Diderot, d'Alembert.
Oui, alors Melchior Grimm, Diderot, d'Alembert, ça c'est l'encyclopédie,
oui, oui,
tout
oui,
le monde connaît.
Oui, oui, oui.
Mais Friedrich Melchior Grimm, un Allemand comme son nom l'indique,
ben, oui.
Un baron, c'était un ami, un protecteur des encyclopédistes. Donc
oui,
il va rencontrer tous ces gens-là. Bon, ça fait un petit peu rêver, on imagine ce que ça pouvait être pour un petit garçon. Il ne devait pas trop savoir qui c'était ces gens-là, mais bon, tout de même.
Mais il était content de rencontrer des gens, il aimait trouver de nouveaux amis, comme il disait. Et puis il a été reçu dans la suite de Madame de Pompadour, donc évidemment la maîtresse officielle du roi. D'ailleurs, une rencontre qui l'a un peu vexé, le petit Wolfgang, parce qu'après avoir joué pour elle, il a voulu aller l'embrasser et elle a refusé. Elle s'est montrée assez hautaine, contrairement d'ailleurs à la famille de la reine et de ses filles. Vous savez que Louis XV a eu un nombre important de filles. Il a eu quelques garçons aussi. Mais,
oui, et puis il a eu quelques bâtards, mais ça, on n'en parlera pas.
Ça, on n'en parlera pas. Mais les filles officielles. Et donc, Wolfgang et son père ont été convoqués pour aller jouer devant les dauphines. Et là, ça s'est très bien passé. D'une part, l'impératrice a servi d'interprète, puisqu'elle parlait allemand, évidemment. Avec les dauphines en particulier, ça s'est très bien passé. Il a adoré embrasser toutes les dauphines et il était tout content, tout heureux d'être si bien reçu par la famille du roi.
Oui, alors il a joué devant Louis XV et devant la Pompadour, donc c'est un séjour à Versailles. Alors ils sont logés, je crois, à côté de Versailles. Le séjour va durer deux semaines, du 24 décembre 1763 au 8 janvier 1764 pour être précis. Alors il y a une anecdote amusante, c'est que quand la Pompadour est présentée donc à la famille Mozart, son père Léopold sourit et il se penche à l'oreille de son fils et lui chuchote « Tu as vu, elle ressemble à notre cuisinière, très elle oui. ». Ce qui avait beaucoup amusé le petit garçon. Il a été moins amusé quand la Pompadour n'a pas voulu l'embrasser. Et puis donc le 1er janvier 1764, toute la famille est conviée pour assister au grand couvert du roi Louis XV. Wolfgang est debout à côté de la reine, tout même Marie Leszinska à l'époque, et Léopold près du roi. Nannerl est entre le dauphin et une des filles de Louis XV, Adélaïde. Donc la reine, qui elle parle allemand, fait office d'interprète. Et puis à la fin du repas, Louis XV demande à entendre Mozart jouer de l'orgue. Il veut entendre le petit prodige. Normalement, c'était convenu le lendemain.
Et oui.
Mais le roi, lui, c'est le roi. Donc lui, il est impatient, il dit « Je veux l'entendre tout de suite ». Donc il se lève et il se dirige vers la chapelle royale où il y a le fameux orgue qu'on peut encore voir aujourd'hui. Tout le monde suit, bien sûr. Et l'enfant arrive, s'assied devant l'instrument, et il frappe une note prolongée, puis une autre, suivie d'un déluge d'harmonie, et le roi est stupéfait. Voilà ce qu'on nous raconte de cette visite au roi Louis XV. Il va verser au père Mozart 1200 livres, ce qui était vraiment une petite fortune à l'époque. Donc il y avait déjà eu des cadeaux qu'on peut imaginer assez opulents. Et puis ils repartiront avec 1200 livres. Et je pense que c'était souvent comme ça.
Oui, c'était un peu l'un des buts. Mais quand même, je crois que le but principal de Léopold, c'était quand même de faire connaître son fils, parce qu'il était très fier de lui.
Oui, bien entendu. Oui, alors qu'il y ait quelques espèces sonnantes et trébuchantes au passage,
ça ne nuit pas. Voilà. Oui, bien sûr.
Alors, il va y avoir d'autres rencontres, notamment sur le plan musical, parce qu'après, il va aller à Londres. Et là, à Londres, il va y avoir une rencontre très importante en avril 1764.
Voilà, il a 8 ans. Et donc, la famille Mozart est accueillie à Londres par Johann Christian Bach. C'est l'un des fils de Jean-Sébastien. C'est celui qu'on appelle le Bach de Londres, justement. Donc,
il était maître de chapelle de la cour de
Londres. Voilà, maître de chapelle de la cour anglaise, britannique. Et donc là, vraiment, il trouve avec Johann Christian Bach quelqu'un qui l'influencera. Vraiment, la musique du Bach de Londres a joué un rôle dans la formation musicale du compositeur Wolfgang Mozart. Donc c'est quand même une rencontre qui a été importante pour lui. Et puis, en 1766, il a 10 ans, il est presque grand. Là, ils sont en Hollande, puis de nouveau en France. Finalement, il passe à Lille et Paris, puis en Suisse, puis à Munich, et enfin, retour à Salzbourg.
Alors, il va y avoir des découvertes, des rencontres, bien sûr, on l'a dit, Johann Christian Bach, par exemple, mais il va découvrir le pianoforte, qui est à l'époque, on était un peu à ses débuts.
Qui est nouveau, oui, un nouvel instrument, qui prolonge le son du clavecin.
Puis il va découvrir de nouveaux genres musicaux qu'il ne connaît pas encore. On rappelle que c'est encore un tout petit garçon, l'opéra italien. Il va découvrir l'opéra italien, très en vogue à l'époque.
Ah oui, ben vraiment, l'Italie était la mère de l'opéra, évidemment. Hein. Et donc là, il découvre ça et il en prend de la graine, puisqu'il ne va pas tarder à composer des opéras.
Alors, on va en parler évidemment de ses opéras, mais surtout, il va composer ses premières symphonies à cette époque, lors de ses voyages en Europe. Et la première de toutes, la première des 41 symphonies, est écrite en 1764 à Londres. C'est une œuvre courte. Hein. Bon, évidemment, c'est pas une symphonie d'une heure, hein, c'est une symphonie qui dure à peu près 11 minutes. Elle est créée en février 1765 et on sent dedans l'influence de ses rencontres avec les fils de Bach, évidemment, en priorité avec Johann Christian. Voici son premier mouvement, Molto Allegro. le premier mouvement molto allegro de la symphonie numéro 1 en mi bémol majeur, composé par Mozart à l'âge de 8 ans. Il n'a même pas 9 ans quand il la commence. Hein. Interprété ici par le Concertus Musicus Vienne, dirigé par Nicolas Harnoncourt. Moi, ce premier mouvement, je trouve ça complètement étonnant si on le compare à l'œuvre à venir et si on pense que c'est un enfant de même pas 9 ans qui l'a composé.
Ah oui, non, mais c'est stupéfiant. L'utilisation des instruments avant, justement, nous en parlions tout à l'heure, là, est ici caractéristique. Hein. C'est vraiment une œuvre authentique, forte déjà.
Mais déjà aboutie.
Mais aboutie. Alors, je voudrais signaler qu'il y a quelques années, l'Orchestre de Chambre de Toulouse, sous la direction de Gilles Colliard, a donné, au cours d'un de ses concerts, cette symphonie numéro 1. Et Gilles Colliard avait, à l'époque, insisté sur le fait que c'était une œuvre aboutie, justement. Ouais, donc, c'est incroyable.
Ouais, 11 minutes, comme ça. Alors, il y a ces passages très longs, là. On a du mal à imaginer que c'est un enfant de 8 ans qui a composé ça. Ouais, parce qu'il y a un petit côté un peu mélancolique qui peut contraster avec la musique souvent guirette de Mozart, très joyeuse. Voilà, bon, magnifique. Nous allons écouter une autre œuvre composée par Mozart durant cette période des voyages d'enfance en Europe. Il s'agit d'une pièce pour clavier, l'Allegro en Fa majeur KV33B, a priori écrite à Zurich en octobre 1766. Il avait donc 9 ans et demi. L'Allegro en Fa majeur KV33B, composé à Zurich en octobre 1766 à l'âge de 9 ans par Mozart, et joué ici au clavecin. Alors encore une pièce étonnante, mais là il y a le côté guiret très mozartien, Serge.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mais vraiment, c'est là aussi une œuvre élaborée quand même. Hein. Quand on écoute ce que joue la main gauche, l'accompagnement, on s'aperçoit qu'il y a une recherche harmonique particulière.
Voilà, on l'a dit, il découvre de nouveaux instruments durant ses voyages, comme le pianoforte, et il découvre aussi de nouveaux genres musicaux, entre autres l'opéra italien. Et chose incroyable, il compose son premier oratorio et son premier opéra à l'âge de 11 ans. Alors tout d'abord, l'oratorio, Serge, quel est son titre ?
Le titre est un titre un peu étonnant, « Die Schuldigkeit des ersten Gebotes », ça signifie « le devoir du premier commandement ».
Oui, ça paraît un peu abscon comme ça.
Très. Alors, il faut dire qu'il l'a joué donc devant l'archevêque, et c'est peut-être la première de ses œuvres qui utilise la voix.
Donc, certainement.
Et c'est la voix au IE vers l'opéra, ça n'est pas encore un opéra, mais ça s'en rapproche.
Donc on est en mai 1767, voilà. Il a 11 ans, même pas 11 ans et demi. Bon, il l'a certainement composé avec l'aide de son père, on peut le penser. En tout cas, le père a sans doute mis un peu le nez dans la partition. Ouais. C'est sur un livret d'un poète salzbourgeois, alors Ignaz Anton von Weiser. Et Mozart disait que c'était un Singspiel spirituel.
Le Singspiel dans lequel il va s'illustrer avec l'enlèvement au sérail et puis la flûte enchantée évidemment à la fin de sa vie. Mais donc c'est intéressant de voir que dès cette époque-là, il a considéré que le Singspiel était une forme musicale intéressante.
Alors ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'à l'époque, son protecteur, appelons ça comme ça, ou en tout cas son employeur, c'est le prince archevêque Schrattenbach, qui va le rester pendant quand même quelques années. Oui. Personnage important pour lui et pour la famille, bien sûr, pour la famille Mozart. Petit extrait de l'oratorio Die Schuldigkeit des ersten Gebotes, le devoir du premier commandement. Il s'agit du deuxième aria, Ein ergrimmter Love brüllt. Thank you. Ein hergrimmter Love brüllet, deuxième aria de l'oratorio Die Schuldigkeit des ersten Gebotes de Mozart, composé donc en mai 1767, et c'est lors de cette même année 1767, celle de ses 11 ans, que notre petit génie va composer également son premier opéra, Apollon Hyacinthus.
Voilà. Apollon et Hyacinthe, oui, oui. C'est un Köchel 38, hein, déjà. Et donc, c'est un opéra tout à fait bizarre. C'est en fait une comédie en latin, destinée d'ailleurs à être interprétée par les élèves du lycée qui dépendait de l'université de Salzbourg.
Oui, parce qu'il est créé effectivement le 13 mai 1767 à l'université de Salzbourg.
Exact, par des élèves donc. Alors c'est un opéra en trois actes et qui est basé sur la mythologie grecque et qui est raconté, l'intrigue est racontée dans les métamorphoses
d'Ovide.
Tout de même, donc, quand même, il y a des références là. Hein. Alors, c'est une légende qui raconte que Hyacinthe est mort accidentellement lorsqu'un disque lancé par Apollon l'atteint à la tête. Alors, il y a un autre mythe qui indique que ce fut le dieu du vent, Zéphyr, le responsable de la mort de Hyacinthe. Zéphyr, jaloux d'Apollon, souffla sur le disque pour le dévier de sa trajectoire afin qu'il blesse et tue Hyacinthe. Il y a une chose importante, c'est qu'à la mort de Hyacinthe, Apollon le change en fleur. Et la fleur, c'est la jacinthe. Donc, on pouvait s'attendre à
ouais,
ça.
Qui pousse grâce au sang d'Hyacinthe.
Grâce au sang de Hyacinthe, voilà. Alors, le librettiste est un prêtre, hein, c'est Rufinus Widl, qui a modifié l'histoire. Il a modifié l'histoire parce que les personnages de Zéphyr, Apollon et Hyacinthe étaient clairement homosexuels.
Oui, il faut rappeler que nous sommes dans l'Antiquité grecque.
Hein. Oui, exactement.
L'homosexualité était courante à l'époque.
C'était courant, ça l'était moins à l'époque de Mozart.
Ah oui, puis c'était moins bien vu surtout.
Et voilà. Et donc, le prêtre en question, Rufinus Widl, y a ajouté un personnage féminin, Mélia, la sœur de Hyacinthe, afin que l'œuvre soit moralement acceptable.
Et selon les canons de l'époque. Alors, on peut se poser une question, ces opéras de Mozart, notamment le premier, là, est-ce qu'on les joue encore de nos jours?
Écoutez, demain.
À Salzbourg, sans doute.
Pour ce qui me concerne, je ne l'ai jamais vu. Et je ne l'ai jamais vu affiché. Il a probablement été joué, peut-être à Salzbourg, oui, c'est vraisemblable. Mais bon, c'est vrai que ce ne sont pas des œuvres courantes dans les répertoires des grands théâtres d'opéra.
Voici maintenant un extrait d'Apollo und Hyacinthus, le premier opéra de Mozart, avec l'aria Letari Iocari.
Thank you.
Letari Iocari aria extrait d'Apollo und Hyacinthus, Apollon et Hyacinthe, le premier opéra de Mozart, composé et créé en mai 1767 à Salzbourg. Alors Serge, là, on commence vraiment à trouver le Mozart que l'on connaîtra par la suite.
Absolument, l'écriture de la voix est tout à fait accomplie là déjà, hein. Les vocalises qu'il écrit, on les retrouvera un peu plus tard, hein, tout au long de la carrière du compositeur.
On rappelle qu'il a 11 ans lorsqu'il compose cet opéra. Et donc Mozart voyage de nouveau en Suisse, puis il revient en Autriche à l'été 1768. Et il va composer pour la cour de l'empereur à Vienne deux autres opéras. Tout d'abord, Bastien et Bastienne.
Oui, qui est un Singspiel.
Encore un.
Justement, et avec donc dialogue parlé. Hein, c'est la caractéristique des Singspiel, donc des pièces chantées. Et donc, il compose cette œuvre surtout pour des jeunes, pour des enfants. C'est un opéra pour enfants, en quelque sorte.
Mais... On en acte, hein, c'est une œuvre courte.
Oui, une œuvre courte, oui. Mais en plus, il ne s'arrête pas là, puisqu'il écrit cet opéra en allemand, hein, donc Singspiel, et puis il écrit un opéra italien à la suite, un opéra qui s'appelle La Finta Semplice, c'est-à-dire La Fausse Ingénue. Vous imaginez qu'un gamin de cet âge écrit sur une fausse ingénue, d'autant plus que c'est une intrigue. Alors l'opéra est en trois actes, en italien, et il est adapté de ce qu'on appelait à l'époque le drama giocoso de Carlo Goldoni.
Grand auteur de
tout
théâtre
de même.
L'époque.
Eh oui.
Mais Goldoni, donc au XVIIIe siècle, c'est le grand auteur de théâtre. D'ailleurs, il viendra en France, hein, pour donner ses pièces. Opéra bouffe, ce qu'on appelle
opéra bouffe. Oui, opéra comique, donc, et en trois actes. Et cet opéra est créé à Salzbourg en 1769. Il a 13 ans.
Et oui, il a 13 ans. Alors, si on revient à Bastien et Bastienne, donc, pour raconter un petit peu l'histoire, c'est une œuvre d'inspiration populaire où on alterne les chants et les passages parlés. Et donc, c'est ce qu'on appellera une pastorale qui relate les amours assez tumultueuses, hein, d'une bergère, Bastienne, et d'un berger, Bastien. Voilà, donc ça, c'était créé en octobre 1768 à Vienne, à l'époque. On va écouter un extrait de Bastien et Bastienne, le deuxième opéra de Mozart, avec un nouvel aria, Diggi Daggi.
Questi pasti saron fro fatto da te. Tacchi surri morri horum harum lirum larum raudi audi giri cari posito questi pasti saron fro fatto matto et cocco fatto matto et cocco
Diggi Daggi, aria extrait de Bastien et Bastienne, deuxième opéra de Mozart, qui avait été créé chez lui dans la maison des Mozart, hein, à Vienne, en octobre 1768, qui sera repris alors très très longtemps après, seulement en 1890 à Berlin. Oui. Évidemment, il aura disparu pendant quelques temps parce que Mozart aura composé beaucoup d'autres choses entre temps. Mais alors, dans ce qu'on vient d'écouter là, le personnage sombre, c'est une espèce de sorcier là, Cola, je ne sais pas comment on prononce, dans l'histoire de Bastien et Bastienne, il y a des choses, là encore, c'est un enfant de 11 ans qui compose quelque chose comme ça, ce côté extrêmement...
C'est presque inquiétant.
Oui, absolument, il y a quelque chose d'inquiétant.
Oui, exactement.
Alors, vous avez parlé de sa troisième œuvre lyrique, La Finta Simplice, La Fausse Ingénue, donc cet opéra bouffa en trois actes, dont le livret est écrit en italien, adaptation du drama Giocoso de Carlo Goldoni, créé à Salzbourg en 1769. Eh bien, nous allons aussi écouter un petit extrait de La Finta Simplice, La Fausse Ingénue, voici l'air Marito Io Vorrei, chanté par Teresa Berganza. Thank you. Marito Io Vorrei, chanté par Teresa Berganza, est extrait de la Finta Simplice, le troisième opéra de Mozart, composé en 1769 à l'âge de 13 ans. Et la même année, il part en voyage en Italie avec son père. Il se rend à Rovereto, à Vérone, à Mantoue, où il se produit et va diriger ses œuvres. Et puis il visite Rome en 1770. Et là, il faut que vous nous racontiez une anecdote célèbre, Serge. Elle concerne le Miserere de Gregorio Allegri.
Oui, et les capacités de mémoire exceptionnelles d'un jeune homme. Là, à Rome, eh bien, les deux, le père et le fils, vont visiter la chapelle Sixtine. Et dans la chapelle Sixtine, il y a de tradition une œuvre qui est donnée, qui est le Miserere de Gregorio Allegri, un compositeur qui est quand même mort en 1652, il y a longtemps. Hein, donc, et cette œuvre est en fait la propriété exclusive du Vatican. Et les gens du Vatican interdisent que l'on reproduise cette musique ailleurs que dans la chapelle Sixtine. Et quand on va visiter la chapelle, on fouille même les gens pour s'assurer qu'ils n'ont pas sur eux du papier et une plume pour recopier ce qu'ils entendent de la musique du Miserere d'Allegri. Et donc, et comme tout le monde, Mozart et son père entrent là, sans papier et sans plume évidemment. Ils écoutent ce Miserere et lorsqu'ils sont rentrés chez eux, dans leur logement, eh bien Mozart prend la plume et de mémoire retranscrit intégralement le Miserere d'Allegri avec les voix multiples, et il retranscrit ça de manière tout à fait naturelle. C'est une chose complètement incroyable. Incroyable.
Une œuvre qui dure 15 minutes, hein. C'est pas une œuvre de quelques minutes, hein. C'est 15 minutes.
Exactement. Mais il a tout retenu et il est tout heureux de pouvoir repartir de Rome avec la partition d'Allegri qui était interdite.
Alors pour qu'on mesure le tour de force qu'il y a à retranscrire de mémoire après une seule écoute une œuvre comme le Miserere d'Allegri, eh bien je propose qu'on en écoute un extrait. Le Miserere Mei Deus de Gregorio Allegri dans une version du Tenebrechor dirigée par Nigel Short. Alors c'est vraiment une œuvre difficile, il suffit de l'écouter. Et donc Mozart, alors âgé de 14 ans, l'a retranscrit de mémoire après la première écoute. C'est vraiment incroyable, Serge.
Ah non, c'est un miracle, c'est quelque chose d'incroyable. Tout à fait incroyable.
Oui, parce que on en parlait là en écoutant, oui. Il a dû rentrer à l'endroit où ils étaient logés avec son père.
Oui.
Avant de la retranscrire, il ne l'a pas retranscrite dans la foulée, donc il aurait pu même s'en évaporer un petit peu des notes qu'il avait retenues. Hein.
Non, mais là, il avait une mémoire, on l'a dit à plusieurs reprises, hein, une mémoire tout à fait exceptionnelle, et dans la durée, c'est-à-dire qu'il n'oubliait rien. Bon, c'est presque monstrueux, enfin, c'est incroyable.
Alors en Italie, il va aussi rencontrer le père Martini à Bologne, il va être admis à l'Accademia Filarmonica de cette ville, puis il va aller à Florence, à Naples, à Milan, où il va faire la connaissance de nombreux musiciens, le pape Clément XIV va le nommer Cavaliere dello Speron d'Oro, chevalier de l'éperon d'or. Et puis un événement important qui survient à cette époque, c'est que son protecteur Schrattenbach va mourir et son nouvel employeur va être Hieronymus von Colloredo Mansfeld, personnage essentiel pour la suite de la vie de la carrière de Mozart. On aura l'occasion d'en parler.
Pas vraiment positivement, le personnage.
Non, c'est vrai, personnage, mais qui prenait de la place.
Ah oui.
Et puis, on va rappeler pour terminer qu'à Milan, Mozart obtient des commandes de symphonie et que son quatrième opéra, Mithridate, Re di Ponto, Mithridate, roi du pont, va être composé et créé là-bas, donc créé le 26 décembre 1770.
Mais donc, il l'écrit et le crée dans la foulée, là-bas. C'est tout de même là aussi une performance qu'on n'imaginait pas.
Alors ça, c'est un opéra en trois actes, livret d'un certain Vittorio Amedeo Signa Santil. En fait, c'est une traduction italienne de la pièce de Jean Racine, Mithridate. Et ça va être un grand succès, parce qu'il va être donné 21 fois à Milan où il est créé. Et puis ensuite, plus rien jusqu'au XXe siècle.
Oui, mais c'est donné régulièrement.
En revanche, aujourd'hui, c'est redonné de nouveau.
Tout à fait.
Un dernier extrait dans cette émission avec l'air Venga pur Minacci e Frema de l'opéra Mithridate Re di Ponto, Mithridate roi du pont, chanté par le contre-ténor Andreas Scholl. Venga pur Minacci e Frema, air extrait de l'opéra Mithridate Re di Ponto, Mithridate roi du pont, interprété ici par le contre-ténor allemand Andreas Scholl, avec qui nous terminons la première émission de notre cycle dédié à Wolfgang Amadeus Mozart, l'enfance d'un génie qui aura gardé toute sa vie, le génie de l'enfance. Je pense que la formule lui va bien.
Ah oui.
J'espère que vous aurez apprécié ce numéro inaugural de la série, même si nous n'avons sans doute pas tout dit, mais les 14 ou 15 premières années de Mozart sont déjà considérables en termes de création et d'anecdotes en tout genre sur la vie du compositeur. Difficile d'être exhaustive donc. Un grand merci à Serge Chosy de m'avoir aidé à préparer et à animer cette émission et de l'avoir enrichi comme il sait si bien le faire de son savoir sur la vie de Mozart en l'occurrence. Je rappelle que ce samedi 30 janvier à 18h a lieu à la Lograin le concert que donne l'Orchestre National du Capitole dirigé par Ka-Chung Wong avec le violoniste Daniel Lozakovic en soliste. Au programme le concerto pour violon numéro 2 de Mendelssohn et la 5e symphonie de Gustav Mahler. Cet événement est retransmis en direct sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'orchestre. La semaine prochaine, nous allons poursuivre notre cycle Mozart avec une émission consacrée à un des genres dans lesquels il a excellé. Et ils sont nombreux, inutile de le préciser. Je ne sais pas si ce sera les symphonies, les opéras, les concertos ou la musique de chambre. La réflexion est encore en cours. tous mes remerciements à Christophe Aubry pour la réalisation de ce numéro, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de votre fidélité, très bon week-end et très bonne semaine à tous.